Savez-vous ce qu'a dit Martin Luther concernant un livre de la Bible, à savoir l'épître que Paul a écrit aux Romains? En examinant et en lisant et en relisant tout ce qu'il y était dit, il a considéré que c'était la cathédrale de la foi. C'était là-dessus que l'on pouvait bâtir et construire sa foi. Alors je me suis intéressé pendant quelques instants à revenir sur quelques textes de cette fameuse lettre de Paul aux Romains. Et on va faire un côté, si vous voulez, théorie, dogmatique, et puis après on ira dans des exemples très concrets. Et vous allez voir que toute l'argumentation, tout ce que nous pouvons étayer, s'appuie sur des vérités fondamentales. Et notamment, plusieurs d'entre elles, nous les trouvons dans ces écrits de Saint Paul, ces écrits de Paul, dans ses lettres, et notamment celles qu'il a envoyées aux chrétiens de la ville de Rome. Alors, en introduction, je voudrais lire quelques versets qui se trouvent dans le chapitre 10 de cette fameuse lettre. Romains, chapitre 10, à partir du verset 9. Et d'ailleurs, ça nous rappellera ce que l'on a chanté tout à l'heure, puisque ce que vous avez chanté était un verset biblique. Donc, Romains, chapitre 10, et verset 9. Il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Et voilà le point sur lequel je vais m'arrêter maintenant. « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. » Alors, pour mieux comprendre, évidemment, ce que l'apôtre Paul explique, il met, si vous voulez, l'humanité dans deux cases. D'un côté, les Juifs, qui étaient déclarés le peuple de Dieu, et tous les autres. Et tous les autres, ce sont ceux que l'apôtre Paul va appeler les Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs. Donc, on va se considérer comme grec cet après-midi, d'accord? Ce sera plus simple à comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul veut montrer que Dieu ne fait de différence avec personne. Et heureusement, d'ailleurs, vous vous rendez compte, si Dieu avait des préférences, ce serait un peu dommage, hein? Dans une famille, quand il y a des préférences, c'est quand même bien dommage et c'est bien triste. Alors, on n'a pas envie qu'il y ait de différence et on a envie que Dieu aime tous les hommes. Et la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que Dieu nous aime tous pareil. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il nous aime tous de la même manière, pareil. Maintenant, il y a toute une explication dans les chapitres qui précèdent. Et on va revenir sur, je suis persuadé, des personnages dont vous avez entendu parler. Un petit peu avant, au chapitre 9, l'apôtre Paul revient sur le cas de Moïse. Vous avez entendu parler de Moïse. Moïse, la mer Rouge, les Égyptiens, Pharaon. C'est une histoire que l'on connaît, les 10 commandements. Eh bien, que dit l'apôtre Paul? Il explique que finalement, il n'y a pas de différence entre le Pharaon et Moïse. Il n'y a pas de différence. Tous les deux étaient des êtres pécheurs et, dans le détail, tous les deux ont été meurtriers. Même Moïse. Il a vu, à un moment donné, deux personnes qui étaient en conflit en train de se disputer. Il va essayer de les calmer tous les deux et puis il va se prendre en pleine face un reproche qui datait d'à peine de 24 heures où son sang n'avait fait qu'un tour. Et voyant un Égyptien qui frappait un pauvre Hébreu parce que à la corvée, ça n'allait pas aussi vite qu'il le fallait, etc., son sang n'a fait qu'un tour, il s'est jeté sur l'Égyptien, il l'a tué. Il l'a enterré dans le sable, ni vu ni connu, sauf que ça s'est vu. Et s'il y en a un qui connaît tout de nous, c'est bien Dieu. Dans le fond, on ne peut rien lui cacher. Donc, à ce titre-là, Dieu a révélé à Paul et à bien d'autres, il n'y a pas de préférence, parce qu'il n'y a pas de différence. Moïse a été meurtrier, coup de sang, coup de colère, mais meurtrier quand même. Donc, pécheur, il est condamnable à cause de cela. Et certainement que le pharaon en avait fait pique-pendre, certainement, et lui aussi était condamnable. Mais au chapitre 9, il est quand même dit, et ça c'est un point intéressant, toujours de cette lettre aux Romains, au verset 14, « Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous entendez ? Ça dépend que de Dieu. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. L'histoire nous rappelle que quand Moïse a été vers Pharaon, les années sont passées, 40 ans de désert sont passés par là, et c'est un homme de 80 ans, Moïse, qui revient vers le Pharaon en disant « J'ai un message de Dieu, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, que mon peuple sorte. » Et la réponse de Pharaon est sans ambiguïté « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ? Moi, je ne connais pas l'Éternel, j'ai un peuple qui est bien servile, qui me sert à construire mes palais, mes temples, je le garde. » Donc, d'où le conflit, les 10 plaies, et finalement, la libération que ce peuple va connaître. Mais, quand même, il n'y avait pas de différence entre un Moïse que Dieu utilisera et un Pharaon qui endurcira son cœur. Pas de différence, ils sont pécheurs tous les deux. Et puis, il était précisé également au début de cette lettre aux Romains, et tout ça a travaillé dans la conscience de bien des hommes, et notamment de ce fameux Martin Luther. Il nous est dit au chapitre 2, on revient sur les Grecs, sur les Juifs, on revient sur ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont eu un enseignement et ceux qui n'en ont pas eu. Pensez-vous qu'aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, il soit plus facile à quelqu'un qui a grandi dans une religion de faire la paix avec Dieu par rapport à quelqu'un qui n'a absolument pas grandi dans aucune connaissance de spiritualité quelconque. Pensez-vous que l'un soit avantagé par rapport à l'autre ? Je ne suis pas persuadé. J'en suis pas sûr. Quelquefois, la connaissance nous éclaire. D'autres fois, elle nous laisse un peu dubitatif ou elle nous égare. Et l'ignorance a ceci de bien, c'est que du fait de l'ignorance, on ne peut pas incriminer quelque chose à quelqu'un puisqu'il ne le savait pas. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là aussi, on revient en arrière, chapitre 2, de cette lettre aux Romains. Voici ce qu'il est dit concernant la différence entre le juif et le grec. En fait, on s'aperçoit que le juif, lui, il connaît avec sa tête. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Finalement, il connaît avec sa tête, mais il semblerait que le cœur en est très loin. Le cœur en est très loin. Le païen, le grec, quant à lui, il fait avec le cœur. C'est la différence. Il y en a un qui fait avec la tête sans le cœur. L'autre, il fait avec le cœur, mais il ne réfléchit pas. Il est dit un peu plus tôt, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ça nous dit que Dieu mesure la part de la foi en action dans le cœur de tout être humain. Et Dieu sait exactement où vous en êtes avec lui. Il le sait. Personne ne peut le savoir. Personne d'autre peut exactement savoir si vous êtes en paix avec Dieu, si vous êtes en colère contre Dieu, si vous êtes en colère contre les hommes, si vous êtes profondément persuadé ou totalement sceptique. Personne ne peut savoir cela. Dieu le sait. Dieu le sait. Et ce qui m'intéressait cet après-midi, c'était de mettre en parallèle la souveraineté de Dieu, d'un côté, parce que c'est la foi qui sauve le perdu. C'est la foi, uniquement la foi. D'un côté, la souveraineté de Dieu, et de l'autre côté, votre responsabilité, la responsabilité de l'homme. Alors ça, c'est le dogme, ça, c'est la théorie, et on va aller dans la pratique sur deux exemples très clairs. Il me semble qu'il n'y a pas plus simple que cela. Dans un évangile, l'évangile selon Jean, je vous résume l'événement, il nous est dit qu'à un moment donné, une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce qui aujourd'hui l'en laisserait plus d'un certainement bien froid. À l'époque, ça a soulevé une indignation générale. Et il y a eu de l'émoi dans les rues de Jérusalem et ça a chauffé. Ça a vraiment chauffé. Et en fait, cette pauvre femme était certainement au mauvais endroit au mauvais moment. Qui plus est, elle s'est fait piéger. Donc forcément, on ne peut plus rien cacher là. On en parle quelquefois, pour ceux qui connaissent, qui sont des lecteurs habituels de la Bible, on est toujours un petit peu surpris que dans cet événement, on n'en ait trouvé que 1 sur 2. Hein. Parce que qui dit flagrant délit, sous-entend qu'ils étaient peut-être 2 quand même pour la chose. Mais le fait est, c'est qu'on a trouvé que cette pauvre femme, la pauvre. Donc ça lui tombe dessus, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on agit avec beaucoup de véhémence. On a une certaine forme de justice. Par rapport à ce que la loi prescrivait, par rapport à ce que Dieu avait donné comme règle, comme principe. Et vous êtes d'accord avec moi si quelqu'un est marié, qu'une personne a décidé d'unir sa vie à quelqu'un d'autre, il le fait avec vérité, il le fait avec sincérité, il le fait d'une manière entière, c'est certainement pas pour être un trompeur et un menteur quelque temps plus tard. Non, que cette femme n'ait une relation adultère, c'est pas normal, évidemment. Elle est mariée, elle a, ou tout du moins, celui avec qui elle aura cette relation n'était peut-être marié à son tour. Bref, c'est pas normal. Elle avait scellé sa vie, elle avait scellé sa décision, son sort, dans un acte, un mariage ou quelque chose ainsi. Donc, c'est une rupture de contrat. Et c'est condamnable en soi, c'est condamnable. Maintenant, bien sûr, les mœurs sont tellement évoluées qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre sans règles. Beaucoup de gens aujourd'hui s'embarrassent pas de se marier, hein. Et quand il arrive quelquefois que l'on demande à certaines personnes « Mais vous vivez ensemble depuis tant de temps ?» On en a connu qui vivaient ensemble depuis 25 ans, qui avaient plusieurs enfants, adultes déjà, qui s'étaient jamais mariés. Et quand on leur posait la question « Mais pourquoi vous ne vous mariez pas ?» « Oh, 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 un divorce, ça coûte cher. » On ne vous parle pas de divorce, on vous parle de mariage. Ça fait 25 ans que vous êtes ensemble. Bah, sait-on jamais. Donc aujourd'hui, chacun s'accommode, chacun voit un petit peu la chose comme il l'entend, et puis chacun avec sa vérité, sa pratique de la vérité. Pauvre femme, dans cet évangile, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, et on la traîne au milieu des cris, des violences. Elle est chahutée, et elle est présentée à Jésus, parce que Jésus est là à Jérusalem, et il est en train d'enseigner dans le temple, et il y a de la cohue, on entend du bruit, et puis on amène cette femme. Et là, ça va être très lapidaire, ça va être très, très vite réglé. Il nous est dit que ces hommes viennent, des gens religieux, viennent vers Jésus. Et au verset 3, ils expliquent ce qui s'est passé. Verset 5, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Sans appel, finalement, j'aimerais vous montrer cet après-midi que Dieu peut pardonner même ce qui est impardonnable. Et il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Dieu peut pardonner même ce qui est impardonnable. Dans leur esprit, on ne pardonne pas une faute comme ça. Dans l'absolu, il y a certainement quelques détails, quelques données psychologiques qui nous échapperaient volontiers. Mais je crois que, effectivement, quand il y a comme cela du mensonge ou en tous les cas une espèce de vie à la dérobée, il y a forcément des séquelles, il y a forcément des conséquences. Le fait est qu'on ne peut pas imaginer pire sort pour cette pauvre femme. C'est condamnable. J'ai envie de dire quel mauvais choix, quelle folie. Pourquoi avoir fait cela? Pourquoi ne pas avoir résisté? Pourquoi s'être laissé aller? Alors, chacun y donnera ses raisons, forcément, il y a des raisons à tout. Je me souviens même d'une personne qui un jour m'expliquait que si elle trompait son conjoint, c'est parce qu'elle n'était pas heureuse. Et voilà, donc elle avait trouvé son bonheur autrement. Et que si son conjoint savait comment faire pour la rendre heureuse, eh bien, il aurait fait ce qu'il fallait et elle n'aurait pas eu besoin d'aller voir ailleurs. On trouve toujours des explications à tout. Maintenant, on ne va pas discuter de ça. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est même pas à nous d'en juger. Moi, je place cette pauvre femme sur le terrible jugement, cette épée qui est au-dessus de sa tête. Comment va-t-elle s'en sortir? Elle n'a pas de solution. Elle n'a pas de solution. On vient vers Jésus avec cette remarque. La loi, Dieu nous dit que c'est impardonnable, c'est condamnable. Elle le savait. Elle l'a fait en connaissance de cause. Toi donc, que dis-tu? Il s'attendait certainement à toutes sortes de remarques de la part de Jésus, mais certainement pas à celles qu'ils vont entendre. Ça va les surprendre. Pendant un moment, Jésus ne dit rien d'ailleurs. Il dit rien, il les laisse s'agiter, etc. Mais au bout d'un moment, on presse Jésus de répondre. Donne-nous ton choix, donne-nous ton idée, dis-nous ce que tu en penses. C'est un acte d'une extrême gravité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu ferais, toi? On sait ce que Dieu ferait, on sait ce qu'on a envie de faire. Et toi donc, qu'est-ce que tu nous dis? Et la réponse de Jésus, elle est simple. Mais elle dit, écoutez, vous avez certainement raison, hein, si la loi le dit. Eh bien, moi, je suis d'avis que celui qui a jamais commis ça, celui qui a jamais fait de faute, celui qui a jamais commis de péché, mais qu'il ramasse le premier une pierre et qu'il commence à la lapider. Drôle de réponse, hein. S'attendez pas à ça. S'attendez pas à ça. Ils espéraient autre chose, certainement. Ils se disaient, ben, vous avez raison, j'ai pas d'argument. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si Dieu l'a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Je rappellerai quand même précisément que bien souvent dans les textes de la loi biblique, il y a souvent eu des arrangements. C'est comme si Dieu avait permis à l'homme, en lui donnant une béquille, comme en lui donnant un moyen de sortir de sa difficulté, comme s'il voulait quand même aider l'homme. Alors, certaines de ces règles ont été aménagées pour l'homme. Elles n'étaient pas voulues de Dieu. Il y en a une notamment, c'est celle du divorce. Je reste sur le même thème puisque c'est ce qu'il est dit dans ce passage. Il nous est dit que quelqu'un est venu un jour vers Jésus en disant « Moïse, dans la loi, nous a dit qu'il suffisait d'écrire une lettre de divorce et on pouvait se séparer. Toi donc, qu'en penses-tu » Et Jésus dira « Mais Dieu n'avait pas prévu ça au départ. » Non, non, il avait dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous les deux deviendront une seule chair. » Il n'était jamais question de séparation, il était question uniquement d'union. Jamais de séparation. Et Jésus insistera, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu vous a prescrit cela. Parce qu'en fait, avant qu'il y ait cette prescription de l'être de séparation et de divorce, en fait, les gens prenaient épouse et les jetaient comme cela, sans autre forme de procès. Imaginez donc, la situation de ces pauvres délaissés était pire encore, bien pire. Donc souvent, Dieu a essayé d'amoindrir le déchet, la souffrance, la peine, la douleur que quelqu'un pouvait connaître, l'angoisse et la souffrance intérieure, voire même quelques conséquences. Souvent, les conséquences de nos actes sont incalculables. Si on avait su, on n'aurait pas fait. Si on nous avait dit, on aurait réfléchi deux fois. Et quelquefois, on ne réfléchit pas. C'est l'impulsion, c'est l'envie, c'est le moment, c'est le désir. Et puis on fonce dans quelque chose qui nous mène droit dans une impasse où nous évite pas le mur. Et je voudrais m'adresser à vous qui êtes dans une grande détresse actuellement parce que vous êtes face à un mur, un obstacle infranchissable, et vous dites, si j'avais su, je ne serais pas rendu là, mais maintenant, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux me retourner? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut tout pardonner. Vous entendez? Dieu peut tout pardonner. Quand Jésus a dit cela, que celui qui a jamais péché prenne une pierre et commence, la Bible dit qu'ils se sont tous retirés. Il n'y en a pas un qui est resté. Parce qu'ils avaient au moins ça de vrai en eux, c'est qu'ils étaient sincères. Et il n'y en a pas un qui a pris une pierre en disant « Moi, j'ai jamais péché », qui a commencé à jeter une pierre. Parce qu'ils étaient quand même, dans leur conscience, ils étaient quand même certains qu'ils étaient tous coupables, d'une manière ou d'une autre, tous coupables. Donc ils ont compris que c'était plus facile de lancer la pierre que de se regarder bien en face et de voir si, dans le fond, nous n'avions pas fait pire. Alors, si l'homme est libre de faire ce qu'il veut, c'est ce qu'on nous dit, est-ce qu'il peut tout assumer? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il doit tout assumer? Ça, malheureusement, oui. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Quelquefois, on a fait bien des choses terribles et on se dit, maintenant, comment est-ce que je peux faire? Ben, je ne sais pas comment tu peux faire, mais en tous les cas, tu dois le faire. Tu dois passer par là. Tu n'as pas trop le choix. Ça, c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut revenir en arrière? Cette femme, elle ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut pas dire, stop, on ne peut pas revenir 5 heures en arrière. Ça m'arrangerait, on ne peut pas. Je vous assure, je ne le ferai plus. Hein. J'ai bien compris la leçon, j'ai eu la peur de ma vie. Non, c'est terminé, on essaye de faire un bac. On revient quelques heures en arrière. Ça m'ira bien, mais on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas. La vie, c'est une marche en avant, hein. Que vous y alliez à reculons ou pas, c'est quand même une marche en avant. Hein. On ne peut pas faire autrement. Donc on est obligé d'avancer malgré tout. Et on ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut pas réparer ce qu'elle a fait. Elle voudrait peut-être bien repartir. Mais on ne lui donne pas l'opportunité de repartir. Hein. Parce qu'on lui dit, maintenant, il n'y a qu'une seule porte de sortie pour toi, c'est mourir. Ça fait froid dans le dos quand même. C'est assez effrayant, ce jugement radical, ce jugement si sévère. Je préfère me rappeler ce qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'à un moment donné, quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, il s'est de nouveau baissé et il écrivait quelque chose sur la terre. On ne sait pas trop ce qu'il écrivait, mais en fait, il n'était pas devant toutes ces personnes qui, les unes après les autres, sont parties. Puis au bout d'un moment, il s'est retrouvé tout seul avec la femme. Alors il se relève, il regarde et il ne voit plus personne, sauf cette femme. Et il demande à cette femme, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Ça change du début de l'histoire. Hein. « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit, « Ben, non. » Et vous savez ce que lui a dit Jésus ?« Maintenant, on va régler les comptes. On est tous les deux, face à face. Je vais te dire un peu tout ce que tu as fait. » Non, absolument pas. Il ne lui a pas dit, « Bon, maintenant qu'il n'y a plus personne, je te le dis, tu mérites de mourir. » Non, il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Est-ce que ce n'était pas la meilleure réponse de vous à moi? Est-ce que ce n'était pas la meilleure réponse? Il n'y a pas de différence. Cette femme qui a été prise en flagrant délit et tous ces autres-là qui étaient là ou qui n'étaient pas là et tous ces autres qui n'ont jamais été pris en flagrant délit, ils sont sous la même condamnation. Ils sont coupables des mêmes faits. Ils ont la même culpabilité sur leur tête. Sauf que certains en prennent conscience, comme cette femme, et d'autres sont toujours visiblement dans l'ignorance ou plutôt dans le refus. On préfère penser que ça n'existe pas, on préfère penser que c'est pas grave. Mais un jour ou l'autre, il faudra comparaître devant Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez vous être fièrement droit devant lui en disant « Merci parce que tu m'as pardonné un jour ». C'est ce que cette femme certainement aura fait quand elle se présentera à la fin au jugement et qu'elle sera devant Dieu, elle pourra dire « Merci de m'avoir pardonné ». Je veux croire qu'avec Dieu, il est toujours possible de repartir dans la vie. Il est toujours possible, si on ne répare pas le passé, sa vie peut être réparée. Son être, son cœur peut être réparé. Ça, c'est une vérité. Dieu est capable de vous bénir. Il n'y a pas qu'une seule solution. Il n'y a pas que la mort. Il y a la possibilité de repartir et de repartir comme si on était passé par la mort, comme si on avait traversé le feu. Il est possible de repartir dans la vie et de se dire « Dieu m'aime ». Et je crois qu'il m'aimera encore. Amen. Maintenant, il y a un autre exemple tout aussi concret. C'est dans l'Évangile selon Luc. On n'est pas dans une affaire uniquement personnelle. Il y a des dégâts collatéraux. On est dans une affaire familiale. Vous avez un homme dans une maison qui décide de quitter la maison. Et comme ça se faisait à l'époque, il demande à son père la part de son héritage. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait pas trop, hein. On attend qu'il soit mort quand même avant d'aller chez le notaire réclamer sa part. Mais à l'époque, ce n'était pas tout à fait ça. Donc, il était bien vivant, le papa, et il y a deux enfants, deux fils. Et l'un veut vivre, alors il va vers son père et il dit « Écoute, donne-moi ma part, j'aurai plus rien à faire avec toi, j'hériterai de rien, mais donne-moi mon héritage maintenant, je le veux maintenant. » Et le père, bon gré mal gré, ben, il donne sa part. à son fils parce qu'il aime son fils. Et le fils part. Et la Bible dit que le plus jeune ayant tout ramassé, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva et alla vers son père. Amen. On est dans les conflits, conflits familial, conflits personnels. On est dans la déception, déçu des autres, déçu de soi. Si vous mettez toute la famille ensemble, je pense qu'ils vont avoir sacré règlement de compte. Hein. Quand celui qui a tout dépensé va revenir à la maison, je pense que ça va chauffer un peu quand même. Parce qu'il a tout dépensé, parce qu'il a été insensé, parce qu'il a été insouciant, parce qu'il n'a pas écouté les conseils, parce qu'il a abandonné la famille. Bref, on peut tout dire, on peut tout dire. La réalité, c'est que cet homme a pensé que c'était facile de gérer sa vie. Et le fait est que ça n'a pas été si simple. On ne va pas l'incriminer parce qu'on aurait peut-être fait les mêmes choses. On n'aurait peut-être pas été très sage, très malin, très judicieux. On n'aurait peut-être pas investi où il fallait, on n'aurait pas placé finalement notre argent où il fallait, on se serait fait des faux amis, on croyait qu'il nous aimait vraiment et puis il nous aurait laissé tomber. Bref, on a tous été déçus un jour ou l'autre. Vous l'avez été déçu, non ? Par des gens de votre famille, des gens de votre voisinage. Vous avez été déçu, peut-être même par le boulot, par des collègues de travail, je ne sais pas. On a tous été déçus un jour ou l'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On avale son chapeau ou on va leur casser la figure ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a souvent essayé d'avaler son chapeau, mais un, ça va, mais quand vous êtes au dixième, c'est un peu indigeste quand même. Comment on fait ? Comment on s'en sort ? Pauvre garçon qui a tout dépensé, qui n'a plus rien. Je me mets à sa place. Si finalement vous aviez le privilège que cet homme a eu, de vivre visiblement dans un bon environnement et que vous décevez tout le monde. Ce n'est pas facile de prendre le téléphone et de leur dire « Coucou, je reviens, vous préparez, vous faites la fête ?» On est peut-être un peu gêné, on est très mal à l'aise. Imaginez ce pauvre homme qui se retrouve à garder dans un enclos, dans une porcherie, les pourceaux. On ne lui donne même pas à manger les aliments qu'on donne aux bêtes. Il meurt de faim, il y a une famine. Vous savez qu'en général, les difficultés, elles n'arrivent pas les unes après les autres. En général, elles s'amoncellent les unes sur les autres. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, la vie est faite comme ça. Et cet homme, il n'a plus de sous. Et comme fait exprès à ce moment-là, c'est la famine qui tombe sur le pays. Donc quand bien même il va aller chercher du secours vers les services sociaux, on va lui dire « Désolé, les caisses sont vides, on n'a plus rien. On ne peut plus rien faire pour vous ». Il va peut-être essayer d'aller trouver de l'aide ici et là, mais il est loin de la maison. Qui le connaît ? Personne. Personne. Il ne vaut pas plus qu'un autre. Hein ? Personne. Ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qui peut aller chercher ce pauvre malheureux là où il se trouve ? Et peut-être que vous vous êtes posé la question, qui viendra me chercher là où je suis ? Hein ? J'aimerais vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu peut tout pardonner. Je crois que Dieu peut tout renouveler aussi. Dieu peut tout faire à neuf. Dieu peut tout faire à neuf. Quelquefois, on a voulu arranger certains objets et on les a enlaidis. Si vous êtes artiste, vous avez peut-être dit, tiens, la belle commode du salon, je vais la repeindre. Je vais faire un style ancien, une belle patine. Sauf que vous n'avez jamais fait ça de votre vie et le résultat est terrible. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est dur de revenir en arrière une fois que c'est fait. Hein. Quelquefois, on a gâché sa vie. On est passé à côté de plein de bonnes choses. Voilà, c'est comme ça. Je me souviens de cette personne que j'avais rencontrée qui avait un visage marqué, visage ingrat, mais marqué, très marqué, hein. Creusé. Il y avait eu des années d'alcoolisme, il y avait eu des années de mauvais traitements, il y avait eu des années de souffrance, c'était quelque chose d'épouvantable. Et tout en parlant, je me souviens avoir vu quelques photos sur les buffets, sur le buffet derrière, et j'étais attiré par une photo quand même, et je me disais, mais qui est cette personne? Et en fait, au bout d'un moment, ma curiosité l'a emporté, et j'ai demandé à cette personne-là, j'ai vu que vous avez pas mal de photos derrière, alors vous pouvez me dire qui est qui? Elle m'a présenté ses parents, elle m'a présenté des autres membres de sa famille, et elle me dit, puis ça c'est moi, cette fameuse photo, où je me disais, mais qui donc est cette personne? La vie l'avait marquée, transformée, quoi. Et là, vous revenez pas en arrière, quoi. Alors elle avait gardé cette image pour se souvenir qu'un jour elle avait été comme ça. Mais on ne peut pas vivre dans la nostalgie permanente. Hein. On ne peut pas vivre dans le paradis perdu constamment. On ne peut pas vivre dans l'idéal qui s'est enfui, qui est loin derrière nous. Et on subit la vie. Ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Si c'est pour vivre en pleurant tous les jours, en disant « j'ai tout raté », je comprends que la vie vous pèse. Hein. Non, avec Dieu, on peut repartir dans la vie. On peut vraiment repartir dans la vie. Et il peut renouveler, régénérer l'être tout entier. Qu'est-ce qui s'est passé à cet homme? Il ne lui reste que deux choses. Il n'a plus la santé, il a des haillons sur lui, il n'a même pas de quoi manger. Il lui reste deux choses. Vous savez quelles sont ces deux choses? Un, sa conscience. Deux, sa volonté. C'est les deux seules choses qui lui restent à ce moment-là. Eh bien, il a une réaction, et on l'a lu ensemble. Quand il réalise dans quel état il se trouve, il se parle à lui-même. Il rentre en lui-même, il se parle à lui-même. Et au bout d'un moment, eh bien, il est logique. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je suis fou. Pourquoi je suis là? Mais pourquoi je reste là? Et il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui demanderai pardon. C'est ça qu'il a dit. Et tout de suite après, le verset, on l'a lu ensemble, dit ceci, et il se leva et il alla vers son père. Deux choses, sa conscience et sa volonté. C'est les deux seules choses qui lui restaient. Je veux croire qu'il vous reste votre conscience et que vous avez encore un peu de volonté quand même pour demander à Dieu de l'aide. Alors il a fait le choix de voir la réalité en face. Ce n'est pas toujours le plus heureux, il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours le plus facile, mais il a fait ce choix-là. Je ne saurais que trop vous encourager à faire le même choix. Voyez la vérité en face. Si ça a foiré, ça a foiré. Si ce n'est pas réussi, ce n'est pas réussi. Ça ne sert à rien de dire « je vais bien ». Un humoriste avait mis ça en sketch il y a des années. Hein. « Je vais bien, tout va bien ». Ouais, ça suffit pas de le chanter, hein? Non, ça suffit pas. La vérité, c'est qu'on n'en est pas là, on est loin, s'en faut. Hein? Regardez la réalité en face. Si ça va pas, eh bien ça va pas. Alors il a fait le choix de chercher la solution, et il a fait le choix de s'humilier. Ça, c'est non pas une thérapie, mais c'est le chemin qui nous mène vers la foi, et qui nous ramène vers Dieu. Ses fautes, il les a reconnues. Il a reconnu qu'il fallait faire un demi-tour. Il y a une expression biblique qui existe aussi dans le domaine militaire notamment, c'est la conversion. La conversion, c'est un demi-tour. Demi-tour. Eh bien, quand on s'approche de Dieu, finalement, on fait un demi-tour. Mais un demi-tour, pas un tour complet, un demi-tour. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus dans la même direction et on ne s'en va plus dans la même direction. Parce que finalement, pendant bien longtemps, on a certainement fui très loin de Dieu et maintenant il s'agit de faire un demi-tour et de revenir vers celui qui vous a donné la vie. Il reconnaît qu'il faut rebrousser chemin et il a fait un examen de conscience, il a fait un examen de cœur. Mais finalement, c'était la seule solution. C'était la seule solution. J'arrive à la fin de ce texte et vers ma conclusion. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand il est arrivé près de la maison, j'imagine que la boule a commencé à... Le cœur a commencé à battre. Je ne sais pas dans quel état vous auriez été. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. J'avais un ami quand j'étais adolescent. Quelque chose m'avait perturbé. C'est qu'il me disait qu'ils étaient 4 frères. Et moi, j'en connaissais que 2 de ses frères. En tout, ça faisait 3. Il en manquait un. Hein. Et un beau jour, c'est arrivé dans la discussion. Et je posais la question, et ton grand frère? Et me dit, ben, il a disparu, on ne l'a pas vu depuis 25 ans. Et moi, ça m'a fait quelque chose. Il était beaucoup plus âgé, il avait un écart entre... Je me suis dit, mais comment c'est possible? À 18 ans, il est parti, il n'a plus jamais donné signe de vie. C'est curieux, hein? Mais imaginez que ce même homme, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, décide de revenir, de téléphoner à la maison, de revenir. Ben, c'est pas simple, quoi, à gérer. C'est pas évident, hein? Le fait est que là, il y est venu quand même. Et puis, il faut que je vous le lise. C'est trop beau, il faut que je vous le lise. Il est dit ceci. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. La clé, elle est là. Hein? Trois mots. Ému de compassion. Ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. À l'époque, on s'habillait comme ça, hein, tunique. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et buvons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Elles sont pas belles ces retrouvailles? C'est miraculeux, franchement, c'est miraculeux. Dans le plus beau de vos rêves, vous n'aviez pas imaginé quelque chose d'aussi bien. C'est miraculeux ce qui est en train de se passer là, miraculeux. C'est ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Il a été accueilli et puis il a été honoré comme cette femme, hein, du texte précédent. Il n'a pas été accusé, on ne lui a rien reproché. On l'a simplement serré dans les bras. Il avait besoin de ça, hein. Il a simplement été aimé, il a simplement été restauré, valorisé, rétabli. Et on pourrait rajouter encore bien des choses à cela. Quelques moments plus tard, alors que la fête bat son plein, il avait un frère qui revient de sa journée de travail. Il avait passé 10 heures au champ. Et quand il revient, il entend du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Et on lui explique que son frère est revenu. Si vous l'aviez vu, il s'est mis dans une colère. Alors, ça mérite explication. Il refuse de rentrer là où il y a la fête et son père sort en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il est tout content, lui. « Qu'est-ce que tu fais ? Viens, ton frère est rentré, il faut que tu viennes. » Mais le frère, il n'entend pas de la même chose. Il se mit en colère. « Il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. » C'était un aller simple pour l'autre, hein. Sans jamais avoir transgressé tes ordres, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il n'a rien compris. Pour lui, son frère était mort. Ben après tout, il a cherché, hein. Il était parti, il a pris sa part d'héritage, il a bien profité, ben qu'il ne revienne plus nous embêter, hein. C'est souvent les sentiments humains, ça. Et en parallèle, vous avez des sentiments beaucoup plus nobles. On a presque envie de dire qu'ils ne sont pas que paternels. C'est quasiment miraculeux. Le père de lui dire, mais je ne comprends pas, tout ce qui est dans la maison, c'est à toi. Tu pouvais te servir quand tu voulais, t'es mon fils, t'es pas esclave dans cette maison. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais, mais aujourd'hui, on va pas se faire la tête. Hein. Aujourd'hui, on va se réjouir parce que ton frère était mort. Et aujourd'hui, il est vivant. Il aurait pu être au fond d'un fossé. Aujourd'hui, il est là. Il pouvait se perdre à jamais et il est là aujourd'hui. Alors, il faut faire la fête. Il était perdu et il est retrouvé. J'ai envie de dire, il s'est retrouvé. J'ai envie de dire, on l'a retrouvé. Il a retrouvé le chemin, il a retrouvé le sens. Il a retrouvé la vie. J'en reviens. Ce par quoi j'ai commencé, il n'y a aucune différence pour ce père entre le fils aîné et le fils cadet. Qu'il ait dépensé les sous, qu'il ne les ait pas dépensés, qu'il ait mal vécu, qu'il ait rien fait. Non, il les aime tous les deux. Et Dieu aime tous les hommes, quels qu'ils soient. Il vous aime, vous, tel que vous êtes, homme ou femme, âgé, jeune. Il vous aime, il vous aime. Il ne fait pas de différence. C'est vous qui faites une différence. C'est vous qui l'acceptez, qui le refusez, qui vous approchez de lui, qui vous en éloignez. C'est vous qui voulez faire la paix avec lui ou pas. C'est vous. Mais c'est évident que Dieu fera la différence. C'est son regard, son secours, son aide qui font la différence encore aujourd'hui. Regardez comme il a su pardonner à cette femme qui était impardonnable, qui était condamnable. Mais Jésus pardonne encore aujourd'hui. Regardez ce que ce pauvre garçon craignait et qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire qu'on le rejette et qu'on lui dise « t'as plus rien à faire ici, va-t'en, c'est plus ta maison ». J'en reviens à cette lettre aux Romains. Y a-t-il une différence entre le juif et le grec? Non, il n'y a pas de différence, parce que Dieu les aime chacun d'entre eux. Aucune différence, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Vous avez besoin d'être aidé? Confiez-vous en Dieu. Vous avez besoin de secours? Il est le secours personnifié. Vous avez besoin d'aide? Mais il a tout ce qu'il faut pour ça. Vous avez besoin d'être entendu? Il a de bonnes oreilles. Vous avez besoin d'être soutenu? Il a les épaules larges. Vous avez besoin d'être écouté? Il a un cœur pour ça. Vous avez besoin d'être sorti de vos galères? Il a la puissance pour cela. Il a tout accompli. On a chanté, notamment un de ses derniers cantiques, « Mon Dieu, par quel amour tu payes pour moi un si grand prix ?» Jésus est mort à la croix pour pardonner vos fautes. Vous comprenez que ça a payé, ça a coûté quand même, mais ça a coûté au Fils de Dieu pour que vous, vous soyez détachés de ça, pour que vous, vous soyez libérés de cette culpabilité et de cette condamnation. Alors entendez-le cet après-midi et croyez-le. Dieu vous aime et Dieu veut vous bénir. Il veut toucher votre vie. Il veut changer votre vie. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est pardonnable. Avec Dieu, tout est réparable. Avec Dieu, tout est renouvelable. Avec Dieu, ça marche. Faites-lui confiance cet après-midi et vous verrez son œuvre dans votre vie. Amen. J'aimerais que l'on prie pendant quelques instants, que l'on s'incline, s'il vous plaît. Peut-être avez-vous prié un jour ou n'avez-vous jamais prié de votre vie. Je vous demanderai simplement de vous incliner avec nous et nous allons juste fermer nos yeux et invoquer Dieu. Lui demander de bénir, lui demander de vous bénir, lui demander d'intervenir dans votre vie, lui demander de venir frapper à la porte de votre cœur. Dieu ne forcera jamais, ne fera jamais intrusion dans votre vie. Il frappera à la porte de votre cœur. Si vous entendez sa voix, si vous comprenez quel est ce Dieu-là, plein d'amour, rempli de compassion pour vous et de miséricorde, si vous saisissez qu'il veut vous faire du bien, alors entendez, il frappe à la porte et ouvrez-lui la porte, il vous bénira. C'est vous qui avez maintenant la possibilité, la volonté, le choix vous appartient. Voulez-vous faire de Dieu un Dieu vivant pour vous? Voulez-vous faire de Jésus-Christ un sauveur qui a tout accompli, votre sauveur? C'est ainsi que nous allons prier maintenant pour que Dieu bénisse vos cœurs. Seigneur, nous venons devant toi et nous réclamons ta grâce. Il y a parmi nous des personnes qui cet après-midi ont besoin de toi et qui n'en auraient pas besoin d'ailleurs, mais certaines moins avancées que d'autres dans cette connaissance biblique et qui ne savaient pas, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas bien quel est ton plan, quels sont tes projets, ce que tu es capable de faire dans un cœur et dans une vie. Et pour ceux qui savent, nous voudrions tellement que tu les convainc, que tu les bénisses et que tu leur dises combien tu les aimes et combien tu veux les accompagner. Je prie que tu manifestes ta puissance maintenant et que tu agisses en ta grâce. Seigneur, touche ces cœurs, amène-les à te choisir, amène-les à venir t'exposer leurs douleurs et leurs peines, amène-les à venir devant toi, t'apporter leur détresse. Ta parole nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Tu l'as fait pour cet homme qui avait quitté la maison et qui n'avait plus rien. Tu l'as fait pour cette femme qui était à quelques minutes d'une mort effroyable. Mais il n'est jamais trop tard avec toi. Alors je t'en prie, bénis ses vies, bénis ses cœurs et glorifie-toi. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent sur la terre. Il y a de la joie dans le ciel quand quelqu'un fait la paix avec toi. Et nous voudrions qu'il y ait de la joie dans un cœur cet après-midi parce que quelqu'un l'a réalisé, l'a saisi et a décidé de marcher avec toi maintenant. Étends ta main, je t'en prie, pose ta main secourable, manifeste ta puissance. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.